Donc je vous ai distribué les citations que je vais utiliser surtout, pas de les lire toutes maintenant si vous voulez, mais quand je vais vous les donner, comme ça vous les aurez plus précisément, ces citations du texte de Shantideva. Aussi j'ai pris une vieille traduction qui date de 1907 de Louis de la Vallée-Poussin, parce qu'il me semblait qu'il avait un langage qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus propice à une méditation, que quand les phrases sont trop compliquées, on a la peine à vraiment s'engager dans la réflexion. Donc voilà, j'ai retrouvé une copie donc de première traduction et qui me semblait la plus inspirante, et c'est aussi celle que j'avais utilisée pendant des années. Donc voilà les quelques citations que vous avez. Donc j'ai laissé les sessions du matin et de l'après-midi ouvertes dans le sens d'un horaire, parce que lorsqu'on médite dans des contemplations comme ceci, il y a une autre énergie qui est mise en place. C'est pas comme lorsqu'on s'assied en silence, on peut voilà, rester pendant un certain laps de temps. Donc on est dans une pratique un peu différente qui met en place aussi une énergie un petit peu différente. Je me souviens quand Geshe Rabelais était venu pour la première fois en Suisse donner un cours d'un mois, et avec Fred, on avait voulu lui demander pour que ça soit en silence. Pendant, on venait des cours en silence, on s'est dit, ouais, ça serait. Il faut quand même que ça soit en silence, parce qu'un stage où les gens parlent, ça va pas. Et pour Geshe Rabden, c'était complètement absurde d'être en silence, dans la mesure où il donnait beaucoup d'informations. C'était un stage quand même où il transmettait, et d'ailleurs, c'est un cours magnifique où il a beaucoup transmis d'informations sur tout le chemin. Donc le silence n'est pas une fin en soi. On peut très bien somnoler en silence. D'ailleurs, même quand on écoute des enseignements, tout le monde a le droit de le faire. Mais, donc le silence n'est pas une fin en soi. Donc on verra comment on va organiser ces journées-là pour être dans cette réflexion, parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Donc ce matin, je voulais commencer par donner une introduction un petit peu à cet échange de soi et d'autrui. Pour essayer d'en évoquer toute la profondeur et la richesse. Donc le chemin bouddhiste vise à la libération, à la liberté inconditionnée, ça c'est clair. Et une grande partie du chemin consiste à une assise en silence avec soi-même pour essayer de découvrir la nature du moi, par exemple, des points les plus importants. Mais évidemment, il est aussi la confusion qui nous touche, qui nous entrave dans la vie, elle a beaucoup à faire au rapport avec autrui. On n'a pas seulement des problèmes avec soi-même, ça arrive aussi quand on est avec les autres. Donc il est aussi judicieux d'explorer le rapport à autrui. Qu'est-ce qui est mis en place? Où se situe la confusion? Et dans ces exercices spirituels, comme on va le voir dans le texte de Shantideva, c'est bien ce qui est exploré. Où est ma confusion dans le rapport à autrui? Ce qui me limite, ce qui me fait souffrir. Donc, une pratique pour questionner ce qu'est la réalité du moi, du soi, mais aussi explorer le rapport à autrui. On a ces deux aspects de la pratique, l'aspect, on pourrait dire, de la sagesse qui vise à découvrir la nature du monde et du soi, et puis l'autre aspect qu'on pourrait appeler d'une manière générale la compassion, qui traite le rapport à autrui. Et on verra, cette compassion englobe la bienveillance et les autres aspects. On prend juste un terme ici pour essayer d'évoquer tout le rapport à autrui. Ce rapport à autrui, dans la tradition du bouddhisme ancien, est en général exploré à travers ce qu'on appelle les quatre brahmaviharas, exploré à travers ces pratiques de la bienveillance, de la compassion, de la joie sympathique et de l'équanimité. Des très belles pratiques qui, justement mettre en jeu ce rapport à autrui et aussi révèle, souligne la confusion qu'on peut avoir dans le rapport à autrui. Donc on a cette méditation en soi-même, sur la nature du moi, sur l'impermanence, etc. Et puis on a ces autres méditations qui explorent le rapport à autrui et qui explorent la confusion qu'il y a dans le rapport à autrui. Et puis par ces pratiques, eh bien on arrive à dépasser cette confusion de l'égoïsme, de l'avarisme, etc. Donc dans la tradition du bouddhisme ancien, on appelle les quatre brahmaviharas ou les pensées illimitées. Et dans le bouddhisme plus tardif, qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, ce qu'on explore, on l'appelle l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est l'intention d'atteindre l'éveil, non pas uniquement pour soi, mais aussi pour que les autres en profitent, pour que les autres en bénéficient. Donc on élargit un peu la motivation en se disant, ben voilà, il n'y a pas tellement de différence entre les autres et moi-même, donc je m'engage dans le chemin spirituel, mais c'est aussi pour les autres, pas seulement pour moi-même. Il ne veut pas dire d'ailleurs que dans le bouddhisme ancien, c'était seulement pour soi-même, mais il y a quand même une différence d'importance qui est donnée. Dans le bouddhisme du grand véhicule, tel qu'on le connaît principalement, évidemment par le bouddhisme tibétain, qui est ce qui est le plus répandu, eh bien, il y a cette motivation de vouloir aider tous les êtres à sortir de la souffrance qui est constamment là. Donc motivation intéressante, mais encore faut-il qu'elle puisse être authentique. Et c'est exactement ce sur quoi nous travaillons ici. Parce que il y a quelque chose qui m'a toujours semblé un peu gênant de commencer dans ma confusion, mon égoïsme et autres, et puis de m'asseoir en essayant de cultiver la motivation que je voudrais bien sauver tous les autres. Pas complètement convaincu. Alors évidemment, c'est une pratique, etc., mais il s'agit, je crois, d'essayer de rendre ceci possible. Est-ce que c'est possible que j'ai cette motivation de vouloir sauver tous les êtres, de l'avoir de manière authentique, et non pas de me forcer, de m'imaginer, parce que ça fait bien, c'est quand même génial. Non, mais de vraiment, sincèrement, du fond du cœur, de pouvoir vraiment avoir cette motivation-là. Pour qu'elle ait un sens, autrement, me semble qu'on peut aussi se cacher derrière des motivations aussi ambitieuses. Donc, les pratiques du bouddhisme visent toujours la libération, c'est-à-dire visent toujours la fin de la souffrance. Et la pratique de la compassion, etc., ont aussi comme but de nous libérer de la souffrance. Non pas comme s'il s'agissait d'accepter ce fardeau particulier qui serait la compassion, de commencer à se tourner vers la souffrance d'autrui parce que c'est le prix qu'on doit payer dans le chemin spirituel. Il faut bien en passer par là pour se développer spirituellement. Donc c'est pas du tout ce qui est en jeu, c'est au contraire que la compassion elle-même est un élément qui va vers la libération, et non pas un tribut qu'il faudrait payer pour pouvoir se développer. Donc chaque pratique, chaque aspect de la pratique a cette, on pourrait dire, ce parfum de liberté. Même s'il s'oppose quelquefois à nos habitudes, peut-être justement parce qu'il s'oppose à nos habitudes. Et nos habitudes, si elles étaient celles de la liberté, alors on n'aurait pas besoin de méditer, puisqu'on aurait déjà toujours les bons réflexes pour aller vers la liberté. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser la pensée et la réflexion parce que c'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement puissant avec la pensée. On peut créer beaucoup de choses, des choses extrêmement compliquées, des œuvres d'art, d'architecture, des avions, ce sont des choses très compliquées. On crée aussi des guerres, des conflits, c'est aussi des choses compliquées. Donc il y a un très grand pouvoir de la pensée, et Là, il s'agit de l'utiliser de manière judicieuse. Puisqu'elle a un grand pouvoir de confusion qui mène au conflit, elle peut aussi avoir, si on l'utilise d'une autre manière, utiliser ce pouvoir vers une plus grande liberté, vers une plus grande compassion. Donc là, on se base surtout sur la tradition de Shantideva, qui est un maître indien, 8e siècle, et puis des commentateurs tibétains qui vraiment se sont beaucoup tournés sur ce texte. Je crois qu'il y a aussi des commentaires en Chine, mais moins nombreux. Presque à chaque siècle, on a des commentaires qui sont écrits sur ce texte de Shantideva. C'est vraiment un texte qui est constamment étudié avec des points de vue un peu différents. Ah, il me semble, des points de vue différents parfois, mais il me semble qu'ils sont trop souvent identiques. C'est-à-dire qu'on se base sur les commentaires précédents et il y a tout d'un coup quelques exceptions. On va voir une exception ici qui me semble extrêmement intéressante. Je reviendrai là-dessus, mais c'est une exception d'une interprétation donnée par un grand maître qui venait de Sumatra. C'est extraordinaire. Au Xe siècle, donc le bouddhisme était florissant de Java et Sumatra, et c'est là qu'on trouve un commentaire, une approche de cette pratique qui me semble extraordinairement originale et profonde, qui suit très bien le texte de Shantideva, qui vient d'un maître qui s'appelle Serlingpa. Alors, Serlingpa, c'est un nom. Ce nom-là veut dire celui qui est de Sumatra. Un peu comme on pourrait dire, je ne sais pas, le Genevois, la Vaudoise, etc. Ben, Serlingpa, c'est celui qui est de Sumatra. Parce que à ce moment-là, on appelait l'île, on l'appelait Serling en tibétain. L'île d'or, Serling, c'est ce que ça veut dire en tibétain. C'est comme ça qu'elle s'appelait en sanskrit. Donc ce maître-là a le nom de celui qui est de Sumatra. Donc c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, le bouddhisme du grand véhicule était florissant aussi loin dans le sud-est asiatique. Et c'est un maître indien, Atisha, qui s'est rendu jusqu'à Sumatra pour recevoir les enseignements de ce maître-là, Serlingpa. Il y a tout un récit de son voyage par bateau pour aller jusqu'à Sumatra. Un récit assez dramatique, et des tempêtes, etc. Je ne sais pas, 10, 11e siècle, quel bateau on avait, mais enfin, il y a quelque chose d'assez magnifique dans ce voyage pour rencontrer ce maître particulier. Et Atisha, qui joue un rôle extrêmement important pour la diffusion du bouddhisme au Tibet, dira toujours que ce qu'il a reçu peut-être de plus profond ou qui lui a permis de faire fondre son cœur vient de ce maître-là, Serlingpa. Même s'il a eu des enseignements d'autres maîtres, c'est ces enseignements-là de Serlingpa qui vraiment l'ont touché au cœur. Donc on a deux traditions au Tibet de réflexion. Une tradition qu'on appelle le Lam-rim, qui sont les étapes du chemin. On décrit toutes les étapes du chemin spirituel avec beaucoup de réflexion, de contemplation, qui ont des textes en général extrêmement, extrêmement vastes, de plusieurs centaines de pages, qui viennent donc aussi d'Atisha et qui étaient donnés à des assemblées extrêmement larges. On pouvait enseigner ces textes. Alors, on a ceux de Tsongkhapa, on a un grand texte de Gampopa qui est l'ornement de la libération, et puis de Patrul Rinpoche, le chemin de la grande perfection. Tout ça, ce sont des textes qui appartiennent à cette catégorie-là. Donc, j'en ai cité trois parce qu'ils sont traduits en français et que c'est des textes qu'on étudie beaucoup, qui sont bien connus. Donc, ces textes-là étaient donnés, ces enseignements-là étaient donnés à des audiences extrêmement larges. Et puis, il y a une deuxième tradition qui est celle des exercices spirituels. Des textes beaucoup plus restreints, qui sont vraiment des textes de pratique et qui étaient en général donnés à des cercles extrêmement restreints de disciples, quelques élèves uniquement, Et souvent, ce n'est pas enseigné dans les monastères. On peut imaginer un monastère, un ermitage, ou un maître qui connaît cette tradition-là. Il l'enseignait jamais à l'assemblée générale. Quelquefois, les gens ne savaient même pas qu'il avait la connaissance ou qu'il avait reçu la transmission de ces exercices spirituels. Et finalement, si on regarde un peu comment ceci s'est répandu, bien, il y a un élève qui avait lu une citation, qui se dit, moi, je veux trouver le sens, je veux trouver qui a cette tradition-là. Et finalement, à force de chercher, à force d'entrouvrir les portes, arrive à recevoir les enseignements de ses maîtres, qui a ces exercices spirituels. Donc, donner un groupe d'élèves beaucoup plus petits, on peut imaginer 4 ou 5. Parce que fallait-il les donner, disait la tradition, uniquement aux personnes qui étaient prêtes. On ne peut pas donner ça à n'importe qui, c'est des réflexions subtiles. On verra peut-être pourquoi il était bien de les restreindre. Et puis à un moment donné, un de ces maîtres-là se dit, mais qui est prêt? C'est difficile de savoir. On ne peut pas dire une personne est prête et l'autre personne n'est pas prête, parce que c'est difficile de savoir, d'évaluer la capacité à recevoir ces enseignements. Et aussi, j'imagine le danger que ces enseignements disparaissent. Parce que si on réserve toujours à quelques élèves, ben, ils peuvent aussi disparaître. Donc à ce moment-là, un des maîtres a décidé, 12e ou 13e siècle, je crois, a décidé d'ouvrir ces enseignements à des assemblées plus large, en se disant, ben voilà, les gens qui sont capables de comprendre comprendront ceci, et puis les autres, ma foi, tant pis, soit les répéteront, etc. Mais il est plus judicieux d'enseigner ceci à des assemblées un petit peu plus vastes. Donc, comme j'ai mentionné hier, moi j'avais reçu l'enseignement de ces exercices spirituels, un ou deux, hein, c'est pas tous, c'est. Il y a beaucoup de différentes versions, si vous voulez, du maître Geshe Nogdamgé, qui enseignait à la bibliothèque Dharamsala. Toujours des maîtres d'une immense générosité, avec beaucoup de patience qui exposait ceci. Aussi, l'avait-il dit, quand il avait reçu ses enseignements, il avait dû prendre l'engagement de pratiquer ceci 6 fois par jour. Il y a aussi quelques lignes de vers, de réciter ceci, donc d'y réfléchir 6 fois par jour. Alors, ce qu'il y a de très spécial dans les exercices spirituels, et surtout dans la tradition de Serlingpa, on va voir, c'est quelque chose qui était assez fantastique et qui vient, tout vient quand même de Shantideva. Je crois que l'origine vraiment, vous pourrez lire les autres, je vais d'ailleurs les citer, mais c'est le vers 120, si on le lit. Quiconque veut arriver rapidement à sauvegarder le moi et le prochain doit pratiquer le suprême mystère, agir à l'égard du moi comme les mondains, comme les autres à l'égard d'autrui et réciproquement. Donc ce vers est un des plus importants. Donc c'était échange de soi et d'autrui. Si vous regardez aussi la dernière citation, de même que tu as si longtemps adopté pour ton moi ce corps formé de matière étrangère, de la semence et du sang, cellules du père et de la mère, apprends donc à considérer le prochain comme ton vrai moi. C'est des affirmations, on va voir, assez étonnantes. Donc, quand il dit qu'il faut échanger soi et autrui, on verra que Shantideva le dit de manière presque réelle. Non pas juste échanger ses biens, son bonheur contre le malheur d'autrui. Il dit échanger, c'est échanger soi-même. Et je crois que c'est vraiment là que Serlingpa prend ceci et essaye de le pratiquer, donner tout le sens. Donc, ce qui est extraordinaire dans cette pratique-là, c'est que on va utiliser l'égoïsme, on va utiliser l'attachement au moi lui-même d'attachement au moi lui-même, donc qui est l'ennemi public numéro un dans le bouddhisme. La notion du moi, ça c'est vraiment ce qui pose le plus grand problème, ce qui fait obstacle à la libération. Et selon Shantideva et Selingpa, il dit, ben, utilisons ceci comme moyen même de se libérer. Cet attachement au moi, on va l'utiliser pour développer les vertus. On prend le poison et on en fait un médicament. Et évidemment, ça, dans tous les exercices de moraux, etc., c'est très rare de trouver ceci. On dit, ben, on va arrêter de faire un ennemi de ce qui est négatif en soi, etc. Au contraire, on va essayer de voir comment on peut utiliser ceci même avec toute l'énergie que ça a. Évidemment, en général, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être égoïste. On peut l'avoir assez spontanément. C'est rare qu'on se dise, bon, allez, là, il faut que je sois un peu égoïste quand même. De temps en temps, on dit, il faut que je pense à moi. Mais enfin, bon. Donc, il va utiliser ceci, hein, un peu comme au judo, au aïkido, que je ne connais pas bien, mais on utiliserait la force de l'adversaire, dans le fond, pour vaincre. Mais on va utiliser toute la force, toute l'énergie qu'il y a dans cet attachement, dans cette confusion qui prend les composés physiques et mentaux. Cette confusion qui les prend pour un moi, qui s'identifie, on va prendre ceci comme moyen de se libérer. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, et aussi qui n'est pas suivi dans la plupart des exercices spirituels. C'est vraiment, je crois, qui viennent de Tserlingpa, on s'est basé là-dessus. Vous voyez, il y en a beaucoup de ces exercices spirituels qui d'abord vont commencer par inviter à méditer sur la vacuité, sur l'absence de moi, etc. Mais si on essaie d'enlever le poison, on ne pourra plus l'utiliser comme antidote, comme méthode. Et Tserlingpa, c'est ce qu'il dit. Il dit non, il faut pas ça. On va prendre. N'essayons pas de l'éliminer puisqu'on veut l'utiliser. On ne va pas éliminer cette notion de cet attachement au moi, on va l'utiliser. Il cite d'ailleurs, en commentaire de ce texte-là, cite Vimalakirti qui dit, c'est les passions qui sont la racine de l'éveil. Les passions sont la racine de l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est capable d'utiliser ses passions dans un autre sens que dans un sens qui va vers la souffrance, vers le conditionnement, à ce moment-là, elles-mêmes permettent l'éveil. Ce qui est d'ailleurs pas tellement bizarre parce que c'est évidemment un peu ce qui nous constitue, donc c'est ce qui nous constitue qu'on va devoir utiliser, ce qui nous constitue, évidemment, les passions, la confusion, etc., c'est ce qui nous constitue qu'on va devoir utiliser pour atteindre l'éveil, et non pas ce qu'on n'aurait pas à ce moment-là. Il dit, il faut utiliser nos propres chaînes pour nous libérer. Et ceci va pouvoir déboucher sur une pratique qu'on connaît bien, hein, de la tradition tibétaine qui s'appelle Tonglen, qui est donner et recevoir, voilà ce que ce terme veut dire. Mais cette pratique de donner et recevoir, quand elle est mise dans ce contexte-là, elle prend une dimension complètement différente que quand il n'y a pas eu cet échange. Parce que vous voyez, s'il s'agit de donner aux autres tous mes biens, mon bonheur, etc., et de prendre toutes leurs souffrances, à nouveau, là, quand on est basé sur la notion du moi, on se demande, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai déjà assez de problèmes comme ça? Pourquoi je vais pas prendre tous les problèmes du monde et puis leur donner le peu de choses que j'ai? C'est difficile de trouver une motivation. On peut dire, ouais, c'est bien, il faut faire ça, etc., mais c'est pas convaincant. On ne peut pas se forcer comme ça, ou prétendre, ou il faut le faire. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est que quand on pratique cet échange de soi et d'autrui, tout d'un coup, ceci devient une évidence. Ceci devient quelque chose de spontané. Donc pour moi, ces réflexions dans ce sens de, des exercices spirituels, il y a le texte de Shantideva, bon, je vous ai donné quelques citations ici, il y a évidemment les commentaires de Serlingpa, qui viennent de Serlingpa, et puis il y a eu aussi un apport immense venant de Simone Weil, surtout d'un texte qui s'appelle L'attente de Dieu, d'une richesse immense dans sa manière de voir le rapport à autrui, qui est d'une telle sensibilité. Et ça, je trouve que ça, pour moi, ça a beaucoup apporté. Pendant longtemps, je lisais le texte de Shantideva et je tournais un peu en rond. Et tout d'un coup, j'ai lu ce texte de Simone Weil. Et presque à chaque phrase, je me dis, voilà, ouais, tout d'un coup, elle apporte un éclairage qui donne du sens et du relief à certaines des citations de Shantideva. Et aussi un texte de Paul Ricoeur qui s'appelle Sois comme un autre, que j'ai juste entrevu parce que c'est quand même assez compliqué. Mais il dit des choses intéressantes, qui permet aussi de clarifier comment on lit Shantideva. Donc en ce qui concerne la pratique du rapport à autrui, une pratique empathique où tout d'un coup on se sent proche de l'autre, eh bien, depuis quelques années, on a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ça fait un tabac, les neurones miroirs, parce que certains chercheurs italiens, avaient découvert que, fait des exercices, expériences avec des singes, par exemple, quand un singe mange une banane, eh bien, celui qui est en face, c'est les mêmes zones du cerveau qui vont scintiller, si vous voulez, lorsqu'il est en face d'un singe qui mange une banane. C'est la même zone que s'il mangeait lui-même une banane. Donc voilà, ils se sont dit, il y a quelque chose dans ces neurones miroirs qui font que naturellement, on peut être en connexion avec ce que l'autre vit. Tout ce que ça a développé, on s'est dit, voilà, on a trouvé la source neurologique de l'empathie. Puis quand même, des chercheurs par la suite se sont dit, c'est bien beau ça, mais faut quand même comprendre ce qui est vu. Si on voit une personne qui fait une grimace devant, et puis qu'on ne comprend pas que cette grimace c'est la tristesse ou de la colère ou de la peur, ça va être difficile d'avoir de l'empathie. Donc ça ne suffit pas juste que des zones du cerveau scintillent ou, si vous voulez, s'activent, mais encore faut-il comprendre le sens de ce qu'on voit. Donc il y a quand même sort d'un processus purement matériel pour comprendre qu'il faut quand même qu'il y ait ce sens de ce qui se passe dans l'autre pour qu'il puisse y avoir une vraie empathie. Mais néanmoins, ce qui est important, me semble-t-il, dans cette remarque, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de spontané dans le rapport à autrui, quelque chose de l'ordre de spontané dans le fait d'être en connexion avec ce qui se passe pour l'autre personne. Immédiatement, on peut ressentir, alors avec les neurones miroirs, on veut bien, et puis quand même le fait de comprendre ce qui se passe, et bien que naturellement, on peut avoir de l'empathie pour la personne qui souffre. Dans un mouvement spontané. Donc tout ce que nous allons explorer avec ces différents aspects, c'est cette citation de Shantideva, celui qui veut rapidement sauver soi-même et les autres doit pratiquer le suprême mystère, l'inversion du soi et d'autrui. L'inversion de soi et d'autrui, c'est le suprême mystère. Parce que d'une certaine manière, c'est tellement étonnant que cette inversion, c'est d'abord quelque chose d'assez surprenant de la faire, et ce qui est mystérieux dans le fond, c'est combien ça change tout dans le rapport à autrui quand il y a cette inversion. Mais inversion de soi et d'autrui, c'est quand même quelque chose de surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a évidemment dans ceci beaucoup d'espace pour la confusion. Pour ceci, qu'il y aura des questions-réponses, parce qu'on peut comprendre ceci de diverses manières. Il ne s'agit pas de rajouter de la confusion sur celle qu'on a. En général, on n'en manque pas, donc on n'en a pas besoin de plus, mais au contraire, d'essayer d'amener quelque chose qui serait différent. on va utiliser cette notion du moi comme moyen de libération. Donc en changeant moi et autrui, intervertir, c'est un peu comme si... Alors je prends un exemple, je ne suis pas sûr qu'il marche bien, mais imaginez que sur un bateau, il y ait deux personnes, à la rigueur, et qu'on veuille nuire à une et qu'on veuille aider l'autre. Eh bien là, c'est un peu comme si on allait, subrepticement, changer les numéros dans la cabine. Alors voilà, la personne à laquelle on veut nuire, on va l'aider, parce que voilà, c'est le numéro de la cabine, et puis celle à laquelle on voulait aider, on va le nuire parce qu'on a changé le numéro. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on change l'étiquette « moi » et « autrui », on change cette étiquette, et tout ce qui était attaché au « moi », il va suivre où on met l'étiquette, c'est-à-dire tout d'un coup, il va être concerné où on l'a mis, et tout, peut-être l'indifférence qu'il y avait par rapport à autrui, eh bien, elle va suivre aussi cette étiquette, en changeant juste les étiquettes. Mais vous verrez, c'est que les étiquettes qu'on change, pas grand-chose d'autre. On n'a pas besoin de changer d'apparence, de commencer à s'habiller différemment, se coiffer différemment. C'est juste l'étiquette « moi » et « autrui » qui change. Et naturellement, spontanément, tout ce qu'il y a qui est attaché à cette notion-là, de « moi » par exemple, eh bien, il va tout d'un coup être dirigé vers autrui, dans lequel on aura placé cette notion du moi. C'est là qu'il y a ce mystère qui fait qu'on utilise ce mouvement-là dans une fin vertueuse, si on veut, mais qui est aussi libérateur. Donc on va changer ces étiquettes, on va se voir comme un autre, et puis voir l'autre comme moi, comme soi. On peut se demander, mais bon, est-ce que c'est pas... quand même nier la réalité. On fait ça, mais on change. On ne peut quand même pas croire que la nuit est le jour ou le jour est la nuit. Comment est-ce qu'on serait autorisé à faire ceci? De quel droit on va tout d'un coup commencer droit par rapport à la réalité? Comment est-ce qu'on peut imaginer tout d'un coup se voir comme autre? C'est aberrant. Alors évidemment, dès qu'on commence à questionner le moi, ben on se rend compte que déjà, cette notion du moi et de toi, de moi et autres, on leur donne des réalités essentielles, substantielles qu'ils n'ont pas. Parce que, vous voyez, si je dis moi, il n'y a que moi. Dans le monde, il y a je ne sais pas combien de milliards de personnes, mais de moi, il n'y en a qu'un, c'est moi. Tous les autres, ben c'est toi. Mais le problème, c'est que chaque personne dit la même chose. Alors, il faudrait savoir. Pour des milliards de personnes, je suis toi, je ne suis pas moi. Mais moi, je prétends quand même, contre les avis de tous les autres, non, moi, c'est moi. Hein. Alors, vous êtes tous dans l'erreur parce que moi, il n'est pas là, il est là. Et là, quand même, est-ce qu'il faut se fier à la majorité? C'est quand même quelque chose de bizarre. Donc, moi et toi ne se réfèrent pas à quelque chose de particulier, une personne particulière, c'est une manière de parler. Et on comprend très bien. C'est ce qui est extraordinaire quand on dit moi et toi dans une conversation, on sait très bien quand la personne dit moi, elle ne parle pas de moi, elle parle d'elle. On a une manière de jongler avec ceci, les notions de moi et toi, qui vient de la petite enfance. Hein, c'est... Un petit enfant, quelquefois on joue un peu avec ça, on parle à la troisième personne, un petit enfant, un autre, mais assez rapidement on se rend compte que ces notions-là, il faut les changer. On interprète toujours quand une personne dit moi, on sait toujours qu'elle veut dire qu'elle parle d'elle-même, qu'elle ne parle pas de moi. Donc vous voyez que ce sens du moi, comment il est flottant, il n'est pas du tout fixe. Aryadeva, le plus grand philosophe bouddhique, l'élève de Nagarjuna, il disait « Qu'est-ce que c'est que ce moi qui est moi pour moi et non moi pour tous les autres ?» Ce moi, il est moi pour moi, mais pour tous les autres, il est non moi. Mais c'est quoi ce moi ? Donc, quand on commence à questionner, mais enfin, ce moi auquel on est tellement attaché, mais qu'est-ce que c'est vraiment que ceci ? Alors, il y a des citations de Shantideva, parce qu'il les met aussi, les Citation 95-96, il dit: le moi et le prochain aspirent également au bonheur. Quel caractère particulier présente le moi pour mettre nos efforts à son seul service? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans ce moi pour que je ne m'occupe que de lui? Quelle caractéristique je vais trouver qui est spéciale, qui n'existe dans aucune autre personne? Qu'est-ce qu'il y a là? Et ces phrases-là, elles ne sont pas anodines. Si on, quand on médite et on réfléchit, on dit, ben, je vais essayer de trouver quelque chose qui justifie. Alors, Shantideva, dans son texte, il donne plein d'arguments. Les gens disent, oui, mais enfin, c'est moi, etc. Il y a plein d'explications. Et puis, il montre que ça ne joue pas. Qu'il n'y a aucune caractéristique qui fait que... qui justifie que je m'occuperai plus de ce moi-là. Il n'y a rien de spécial. Donc moi, je, c'est une manière de parler, qu'on comprend très bien. Mais c'est qu'une manière de parler. Pas vous citer tout Nietzsche, mais Nietzsche disait c'est une particule grammaticale. C'est pas grand-chose, il n'y a pas de quoi s'attacher à une particule grammaticale. Moi et toi, ou moi et autre, c'est comme ici et là. Ben, ici et là, vous allez me dire, ici, ça a quelle allure? Ben voilà, ça a l'allure ici, mais enfin, imaginez que vous êtes au téléphone portable, que vous ne l'avez pas mis dans le petit panier ici, eh bien, alors évidemment, au téléphone, on entend bien, ah, alors ici, voilà, ici, c'est comme ça, alors voilà, ici, ben, il y a des montagnes, etc., puis vous baladez, vous êtes à Bulle, ben, ici, c'est comme ça, mais enfin, ici, c'est comment, finalement, quoi? Ça fait 5 fois que tu m'appelles dans la journée, et ici c'est toujours différent. Alors, on va quand même savoir comment ici c'est. Et donc, ici, ça n'a aucune caractéristique particulière. Ici, c'est simplement une manière de parler qui essaye de, contextuellement, de définir voilà, l'endroit où on est. De la même manière, là, donc ici et là, n'ont aucune. On ne peut pas dire que ici et là, c'est la montagne, le désert, le lac, et puis le. La plaine, etc. Il n'y a rien, aucune caractéristique sont propres à ici et là. Ça n'a pas de la peine à comprendre, mais ben, moi et autres, c'est la même chose. Il n'y a pas de caractéristique propre. Ce n'est pas homme, femme, grand, petit, jeune, vieux, ça n'a aucune. Moi, ça n'a aucune caractéristique. Aucune. Autre non plus. C'est juste c'est cette manière de parler qui nous permet de communiquer, de comprendre. Mais des caractéristiques essentielles, il n'y en a aucune. Ça ne nous empêche pas de nous attacher à ce qu'on croit être des caractéristiques particulières de ce moi. Donc si on prend soi-même comme un autre, on peut voir deux sens différents. Soi-même comme un autre, ça voudrait dire soi qui est idem à un autre, qui est égal à un autre. Nous sommes tous égaux. Soi, ça c'est soi identique à un autre, la même valeur qu'un autre. Et là, Shantideva aussi développe ceci dans les divins versets. Je prends le 90 et 92, par exemple, ce qu'est la joie pour moi, elle est pour autrui. Ce qu'est la douleur pour moi, elle est pour autrui. Je vais faire pour autrui ce que je fais pour moi-même. Ce qu'est la douleur pour moi, elle est pour autrui. Voilà, il dit, on est identique. Quand on éprouve de la douleur, ben on l'éprouve de manière similaire. Et ça aussi, c'est très fort. J'aime bien comment l'abbé des Poussins a traduit ceci de manière tellement brève. Ce qu'est la douleur pour moi, ou ce qu'est la joie pour moi, elle est pour autrui. Et c'est simple. Et quand on réfléchit, mais effectivement, c'est... D'ici, ma douleur n'a pas de retentissement dans le corps des autres, elle n'en est pas moins douleur, pénible à supporter à cause de l'attachement au moi. C'est pas parce que les autres ne ressentent pas ma douleur qu'elle n'est pas douloureuse. Là, on est d'accord. Même si les autres disent, ouais, c'est rien, tu peux toujours dire c'est rien, mais enfin, quand même, ça fait mal. Mais, évidemment, après, au verset 93, il dit, si la douleur d'autrui n'est pas ressentie par moi, elle n'en est pas moins douloureuse pour lui, pénible à supporter à cause de l'attachement au moi. Il dit, ben voilà, l'autre personne, quand elle souffre, ben, c'est douloureux. à cause de son attachement. Et ça permet vraiment, c'est aussi une manière de s'ouvrir à l'empathie. On dit, mais dans le fond, c'est vrai, c'est exactement comme quand moi je ressens quelque chose. Sa douleur est autant justifiée que la mienne dans ces circonstances-là. Voilà, ce sont des phrases évidemment à méditer, à contempler. En général, on prend des exemples, et puis alors, je crois que ça commence à nous parler plus profondément. Donc ça, c'est la première partie, le premier sens de cette phrase, soi-même comme un autre. Et le deuxième, alors il est un petit peu plus profond, tranchant, c'est soi-même en tant qu'autre. Se voir comme une autre personne, pas comme l'égal d'une autre personne, mais en tant qu'autre personne, je deviens autre. Et ça, évidemment, c'est la tradition de Serlingpa, c'est la tradition plus difficile, plus tranchante, mais combien plus efficace. La première est assez commune, dans le fond, mais cette manière de se voir en tant qu'autre, là, ça permet le développement de la sagesse, où ça va nous permettre de dépasser la notion de moi, la notion de la réalité d'un moi. Alors on va vraiment pouvoir développer dans cette citation de Shantideva, on voit que la sagesse et la compassion sont rassemblées dans une seule phrase. Donc, soi-même en tant qu'autre, pas similaire, mais comme étant une autre, un autre comme tous les autres. On a déjà vu ça un petit peu hier soir, mais je vais y revenir. Donc, autre, qu'est-ce que c'est ? Ben, autre, c'est évidemment, il y a tellement d'autres personnes, et elles sont remplaçables, dans le fond. Et autre, c'est pas quelqu'un de particulier. Quand on parle d'autre ici, on ne se fixe pas sur une autre personne qu'on va finalement presque identifié, on parle d'autres, ces autres qui sont neutres, qu'on voit dans la rue, j'ai parlé hier, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est le fait d'être autre, pas simplement l'autre de moi, qui pourrait être un proche, etc., où j'ai aussi de l'attachement, mais autre, cette personne qui reste un peu dans l'anonymat, qui est ce « on », si vous voulez, quand on parle. Donc il va s'agir tout d'abord d'essayer comment est-ce qu'on peut soi-même commencer à se percevoir ou se penser comme autre, mieux que percevoir, se penser comme autre, plutôt que se penser toujours comme moi. Puis on va juste changer le vocabulaire. Mais ça va tout changer. Donc comment est-ce qu'on peut se penser comme autre. Donc d'abord, réfléchis à ce que veut dire autre, qu'est-ce que c'est qu'être un autre. Donc, on refera un petit peu dans la pratique d'imaginer toutes ces autres personnes. Mais ensuite, se voir soi-même comme un autre, quand on a compris ce que ça veut dire autre, se voir soi-même comme un autre. Mais là, il y a évidemment plein de nuances, et je l'ai mentionné aussi hier soir, il ne faut pas qu'on se retourne et qu'on retourne le regard sur soi, parce que là, on va toujours se reconnaître. Donc, il n'y a pas cet aspect réflexif, autrement, on reste enfermé dans cette notion-là. Donc, on regarde vers l'extérieur, on regarde les autres personnes, on regarde le monde, et puis on va développer cette pensée d'autre par rapport à soi. Avec cette similarité par rapport aux autres, avec cette manière qu'on peut imaginer, ont les autres de nous voir, donc on ne va pas se mettre dans les bottes de l'autre qui nous regarderait, parce qu'à ce moment-là, on va se reconnaître, ça va être difficile. Dans ces méditations-là, on ne quitte jamais sa position à soi. On ne se met pas dans l'autre, on ne se regarde pas, on est simplement. Et là, on va développer cette capacité à être autre. J'ai une citation de Pascal, je n'ai pas retrouvé dans toute sa totalité, mais voilà l'essentiel, il disait « Quand je passe dans la rue et que quelqu'un regarde depuis sa fenêtre, ce n'est pas moi qui le voit, c'est un autre. » C'est clair. Alors, on dit « Il me voit, Ce qui voit, c'est pas moi. Ce qui voit, c'est une autre personne qui passe dans la rue. Donc c'est cette réalisation-là qu'on va essayer de développer. Et c'est pas parce qu'il est confus. Pas dire que cette personne à sa fenêtre complètement confuse parce qu'elle a pas reconnu que c'est moi qui passais. Ou alors c'est qu'on a quelques problèmes quand même. Mais en général, on n'est pas là. Donc réaliser ce que ça veut dire que l'autre personne qui me voit quand je passe dans la rue, elle voit un autre. Et qu'elle n'a pas tort. Et c'est pas de la confusion. Voilà, donc on va essayer de pratiquer un petit peu ceci. Vous pouvez vous installer, je vais vous guider à nouveau. Je fais que des suggestions, c'est des suggestions de choses qui m'ont parlé. Voilà, après on a tous nos habitudes. Si je parle de prendre le métro ou le bus, et si vous êtes toujours à bicyclette, c'est peut-être ça vous parle moins, mais enfin vous changerez, vous trouverez un autre exemple qui vous parle. Donc, en fait, ce qu'on fait dans cette pratique, on accumule un petit peu les expériences, l'information, pour que cette manière d'être devienne de plus en plus claire. Il y a un peu d'opposition quelquefois, tout d'abord, parce que voilà, on a envie de rester soi. Mais lentement, on se rend compte que c'est non seulement, c'est pas faux, c'est pas une erreur, c'est un point de vue, mais aussi on se rend compte ce qu'il y a de libérateur. Que de se voir comme autre, c'est tellement, tellement plus léger que d'avoir toujours le fardeau d'être un soi, un moi qui doit toujours obéir à tout ce qu'on veut pour soi-même, etc. Les exigences qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est tellement plus libérateur. C'est peut-être un peu ce qui se passe, plus dans le mauvais sens du terme, mais vous voyez, quand il y a des groupes de personnes, des groupes de soldats en vadrouille ou de supporters de clubs de football, ce n'est pas des exemples très positifs, je crois. Mais enfin, on a l'impression qu'ils ont toute la liberté de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des on. Ils font partie d'un groupe, ils sont perdus dans un groupe, donc il y a quelque chose là qui font. Ils ont un sens de liberté qu'ils utilisent malheureusement en général à mauvais escient. Voilà, donc je vais vous guider à nouveau dans ces imaginations pour prendre des exemples et puis choisissez. Je vous laisserai un moment aussi pour que vous trouviez vous-même les exemples qui vous parlent et pour essayer de prendre la mesure de qu'est-ce que ça veut dire quand on pense autre par rapport à soi-même, combien il y a cette ouverture et cette liberté aussi.